La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Pensez à covoiturer.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vos 32-16, discuter, réagir, témoigner, c'est ce que nous vous proposons tous les jours. Aujourd'hui, Barbara Lefebvre, Frédéric Farah, Étienne Liebi. Vous savez, quand Frédéric Farah est là, on a toujours un petit clin d'œil. Il y a quelques instants. Elvis Presley. Mais alors, mon cher Fred, l'ami Étienne Liebi qui a un cadeau pour toi.
Ah oui, alors, la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait déjà un bout de temps, je t'ai dit, tu m'as dit, tu rêverais de t'accompagner en chantant du Elvis, t'accompagner à la guitare. Donc, je t'ai mis sur cette clé l'intégralité de toutes les chansons d'Elvis avec les accords et avec les faciles pour la guitare. Je t'ai mis aussi tous les accords de guitare pour que tu puisses, et je m'engage à te donner ta première leçon sur une chanson pour que très vite tu puisses apprendre à t'accompagner, parce que c'est pas la mort.
Oh ouais, il est content.
Il s'embrasse.
Oh là là.
C'est génial.
Oh là là.
Ouais, c'est émouvant, c'est émouvant.
C'est la musique et Elvis réunit tout le monde.
Ça, on le fait.
Ah oui, oui, oui.
On a hâte de voir, mais dans longtemps.
Je crois qu'on va être disque d'or avec ça.
Pour la dernière.
Pour la dernière, en 2060.
Écoutez, non, mais la toute dernière.
J'adore. Olivier qui en rajoute.
Allez, pas.
Ou alors, c'est Frédéric qui sera candidat à la prochaine Eurovision avec son titre.
Avec un titre d'Elvis.
Oui, t'as des plumes, t'as quelque chose, t'as prévu un
costume. Il faut que tu vas à la Elvis.
Un jumpsuit.
Il faut que tu deviennes non-binaire.
Non-binaire, évidemment. Il faudra un Elvis non binaire.
Farah,
quand il arrive,
Boy George était non binaire.
Il y en avait plein des non binaires dans les années 80.
Quand tu vois arriver Farah et Liebi, est-ce que tu dis ils sont de gauche? Et quand tu vois arriver Barbara Lefebvre, est-ce que tu dis elle est de droite? Peut-être. Mais ça sera dans un quart d'heure qu'on en parlera. Est-ce que le look, est-ce que l'apparence vous fait tout de suite deviner
la
personne?
Parce que le moine.
Ça, c'est sûr. Il est de gauche, il est de droite. Ce sera tout à l'heure à 10h20. En attendant, on parle de Madame Hidalgo.
RMC, les grandes gueules.
Vous vous souvenez que lorsqu'elle avait inauguré la piscine dans le 20e arrondissement, Madame Hidalgo s'en était pris à ceux qu'elle appelait les gna gna gna, ceux qui sont jamais contents, ceux pour qui les Jeux Olympiques est plus une source d'embêtement qu'autre chose. Eh bien, Madame Hidalgo a récidivé hier en s'en prenant au... Enfin, je vous laisse le découvrir.
Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol! Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble.
Voilà, elle s'adresse aux peines à jouir. Donc, si vous êtes en train de râler à cause des emmerdements maximaux en ce moment dans Paris, vous êtes un peine à jouir.
Oui, il faut rappeler qu'Anne Hidalgo était contre ces Jeux Olympiques au tout début. Hein. Elle ne voulait pas d'une deuxième candidature parce qu'il y avait le traumatisme de l'échec de la première. Souvenez-vous, elle était aux côtés de Bertrand Delanoë. Elle était déjà adjointe à la mairie de Paris et on était persuadés de les avoir. Et finalement, Londres nous était passé devant. Ils avaient fait un meilleur lobbying, etc. Et donc, elle ne voulait pas revivre l'aventure d'un échec. Donc, elle s'est fait un peu quand même tordre le bras à l'époque par les autorités. Et ensuite, bien sûr, elle a épousé la candidature et elle a fait en sorte qu'on l'obtienne. Et la deuxième chose, c'est que elle dit la ferveur populaire est en train de monter. Je regardais un dernier sondage qui était publié dans Le Monde, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que plus on approche des Jeux, c'est d'ailleurs assez étonnant, moins les gens sont enthousiastes. Alors peut-être que ça va changer avec la cérémonie d'ouverture qui s'annonce spectaculaire, mais pour l'instant, on voit un peu les inconvénients plus que les avantages d'avoir ces Jeux Olympiques à Paris. Pour ceux qui habitent à Paris, sincèrement, pour l'instant, c'est que des inconvénients. Et moi, je me demande si la maire de Paris vit dans la ville qu'elle dirige, parce que on est à à 3 mois des Jeux, et ils ont déjà fermé beaucoup d'axes, donc c'est la pagaille, notamment le soir, avec des embouteillages monstres. Les tickets de métro vont coûter le double, avec l'incertitude de pouvoir monter dans une rame, puisqu'on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout du trajet. On nous a même expliqué que ce serait mieux de descendre une station avant, une station après. Il a même été dit à un moment donné que ça serait bien que les Parisiens télétravaillent, ne sortent pas de chez eux pour pas densifier la circulation. Bref, tout ce qui est présenté, en fait, d'une façon factuelle, par ces élus, et notamment Anne Hidalgo, ce sont que des contraintes. Et je parle pas du QR code.
Voilà.
Je conseille d'aller sur le site internet pour obtenir le QR code.
Jamais.
C'est un bijou administratif.
Jamais.
C'est un chef-d'œuvre de l'administration française.
Subi le
pass
sanitaire.
En fait, pour l'instant, je pense que les Parisiens ne voient que les contraintes. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est génial d'avoir les Jeux dans leur ville, mais pour l'instant, il y a que des contraintes.
Non, mais je crois que dans cette histoire, en fait,
est-ce que tu te sens comme un peine à jouir?
Moi, j'ai envie de jouir de toutes ces peines parce que je les trouve merveilleuses. Hein. C'est vrai que. Avec tout ce qu'on sait sur la circulation, etc. et tout, c'est vrai que ça donne hyper envie de jouer. Non, mais je crois que. Et en plus, c'est horrible comment elle parle. Enfin, c'est assez insupportable.
C'est Nabila.
C'est horrible.
Allô, franchement,
donc,
les gars.
Effectivement, moi, je ne suis pas sadomasochiste. Je ne réjouis pas et je ne jouis pas de savoir que c'est la loi de l'emmerdement maximum. Et donc, pour l'instant, si quelqu'un nous a indiqué qu'il y avait quelque chose de positif, à part nous pourrir la vie pour les mois à venir, j'aimerais savoir quoi. Et en plus, si c'était cette fête populaire, les billets seraient bon marché. Aujourd'hui, n'importe quelle compétition qu'on pourrait voir de 14e rang va coûter un bras pour chacun d'entre nous.
Plusieurs centaines d'euros.
Plusieurs centaines d'euros. Alors, autant dire que c'est les Jeux Olympiques pour certains bobos, pour les catégories supérieures de la population. Mais aujourd'hui, je n'ose imaginer le prix que doit coûter le fait d'assister à la finale de 100 mètres, par exemple. J'ai même pas envie de savoir combien ça peut coûter ce truc.
Pour 9 secondes, en plus.
Pour 9 secondes, c'est-à-dire on va lâcher je sais pas combien de centaines d'euros et on va presque demander aux coureurs qui puissent courir en 3 minutes pour qu'on puisse en profiter un peu plus hein, si on peut faire la chose. Donc moi ce qui me fatigue, c'est que j'en ai marre qu'on ait des dirigeants pareils en fait. C'est ça qui est insupportable. C'est pas l'histoire des peines à jouir, c'est d'avoir des dirigeants pareils qui devient vraiment fatigant.
Étienne.
Moi écoute, je suis tout à fait d'accord avec Hidalgo. Alors là, je vais te dire, je déteste le sport. J'étais contre ces JO que je trouve complètement naze, qu'un pays dépense du fric pour cette fête. Moi, j'étais pour une autre fête, d'autres genres de fêtes. On a eu des débats ici. D'ailleurs, tout le monde était pour. Tout le monde trouvait ça formidable.
Moi,
je trouve ça complètement con. Mais maintenant qu'on y est, maintenant que on a mis le pied dedans, il faut se dire que voilà, il faut suivre le mouvement. Il faut être enthousiaste. Moi, personnellement, je m'en fous. Je regarderai jamais un truc à la télé et je n'irai pas. Mais je trouve que c'est formidable que la France se retrouve comme ça au centre du monde pour 15 jours, 20 jours. Je trouve ça absolument formidable. Il faut marcher dans le truc. Et je trouve que sans arrêt être sur ce côté très français de dire ah non ça va nous faire chier c'est long mais voilà c'est comme ça il faut accepter le truc.
Ah bon ?
Mais oui bien sûr que ça va certainement être pénible, bien sûr qu'il y a des tas de trucs qui vont être pénibles,
alors
mais en même temps
c'est une fête
nationale, c'est un truc important, ça arrive une fois tous les 100 ans, c'est quand même pas un truc qui arrive tous les jours, donc il faut se mettre derrière cette affaire et effectivement il faut accepter un certain nombre
le
de désagréments
oui.
Et je trouve qu'on a un côté français, je pense pas qu'il y avait la même chose à Londres, je pense qu'il y avait la même chose au Japon.
Ah.
Et au Japon, je sais pas si c'est réfractaire parce que les Gaulois ont été tous sauf réfractaires.
Ah, c'est vrai, ils sont pas très réfractaires.
Et je trouve,
de pas avoir la mentalité japonaise.
Je trouve juste que c'est dommage de pas être plus partant. Et je pense très sincèrement que les choses vont bouger parce que une fois que ça va être parti, on va être finalement dans une autre forme d'enthousiasme. Mais je trouve que c'est bien que la France rayonne dans le monde. Je trouve ça assez fantastique.
Je me rappelle pendant la période du pass sanitaire et tout ça, des débats qu'on a eu ici. Pareil, tu nous disais oui, c'est comme ça, faut accepter, etc.
Il disait même que la Chine c'était un bon modèle.
Oui, alors la démocratie et qui plus est la démocratie française qui est tumultueuse, qui effectivement est souvent à rebrousse-poil, ça peut être de dire que là où il y a une espèce d'obligation d'enthousiasme, une obligation de suivisme, une obligation de panurgisme, eh ben on peut dire que non, nous ça nous gonfle. Maintenant, comme toi, je ne vais pas regarder parce que je m'en fous, mais moi en plus je dis que je suis contre ces Jeux Olympiques parce que la situation de la France fait que on a autre chose à faire que d'organiser ces jeux, que sécuritairement on n'est pas au point,
il y a trop de menaces.
Non mais moi il y a 10 ans je considérais qu'on était déjà dans un état sécuritaire lamentable et aujourd'hui c'est 10 fois pire. Alors je vais te dire, il y a 10 10 ans, j'étais déjà pas pour. Alors maintenant, c'est de pire en pire. Et par ailleurs, moi, je suis catastrophée de la façon de parler de Madame Hidalgo. Oui, c'est toujours pareil. Ouais, alors moi, je suis un peu, effectivement, sur l'exemplarité. Alors peut-être que j'ai des vieux modèles. Mais auriez-vous imaginé, même Chirac, maire de Paris.
Et De Gaulle?
Non, mais moi, je te parle juste des maires de Paris. Mais même Monsieur Delannoy, il parlait pas comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage?
Chirac, il avait un langage très cru dans le privé.
Oui.
Mais jamais il aurait parlé comme ça.
Jamais. Et quand il parlait avec le petit Parisien dans les petits cafés, oui. Il leur parlait pas faussement populo. Et quand il rencontrait des gens chicos, il parlait pas faussement chic. Il était juste lui-même. Cette dame, elle n'est pas elle-même.
Oui. C'est le plus gros falsettiste de l'histoire. C'est elle qui l'a fait croire à tout le monde qu'il était d'origine campagnarde, alors que depuis trois générations ils étaient à Paris.
Elle était compétente.
Mais ça c'est clair.
Donc de toute façon, il n'y a pas d'objectivité.
Fred, parce qu'on a un commerçant qui nous appelle du 20e arrondissement. Bonjour Fred.
Non, c'est Hervé.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous en dites Hervé? Alors vous, est-ce que vous considérez comme un peine à jouir?
Ah ouais, mais c'est une catastrophe. C'est une horreur. Moi, je suis commercial sur Paris. Je travaille toute la journée en voiture. Concrètement, je pète des câbles, quoi. Je serre du crâne. Je peux plus faire mon travail correctement. C'est catastrophique.
Vous avez perdu des clients ou du chiffre ou...
Je perds énormément de chiffres. C'est-à-dire que habituellement, je voyais entre 12 et 15 clients par jour. J'arrive péniblement à 8 clients. 8 clients. Mais c'est 8 clients et faut que je me batte, quoi. C'est une horreur, d'autant plus que je circule en électrique, on peut plus se garer, on peut plus circuler, les voies sont sens unique. Hier, j'avais un client, j'étais garé juste en face, je regardais la voiture de peur qu'on me la soulève, parce qu'on me fait ça à peu près en deux temps, trois mouvements, on vous l'enlève, vous comprenez rien. C'est catastrophique, c'est sale, ça pue.
Ce qui est amusant, Hervé, c'est que David Béliard... l'incomparable adjoint chargé des transports, c'est le pompon, l'écologiste, qui est contre les jeux d'ailleurs, parce que vous savoir qu'à la mairie de Paris, tous les écologistes sont contre ces jeux.
Bien sûr.
Donc ils sont dans une majorité qui soutient les jeux. Déjà, on est dans un truc complètement dingue. Mais il lui-même a dit qu'il avait été victime de ces embouteillages et qu'il comprenait que c'était le problème. Moi, ce que je comprends pas, c'est que il y a pas de force de l'ordre déployée, parce qu'effectivement, il y a des ponts qui sont fermés, etc. On a voulu faire les jeux dans une ville, ce que les autres n'avaient pas fait. Et on voit bien toutes les conséquences un peu négatives du truc. Mais il n'y a pas de policiers déployés pour faire la circulation. Je ne comprends pas. En fait, on laisse ces gens se démerder.
Hervé, je peux vous poser une question? Il y a des villes en France, alors il y en a beaucoup ailleurs, mais il y en a quelques-unes en France, dont l'intégralité du centre-ville est interdite. J'étais à Rouen la semaine dernière. L'intégralité du centre-ville est interdit aux véhicules, est interdit aux voitures depuis très longtemps, et on peut pas y rentrer en voiture. Comment les gens qui font votre taf font dans ces villes, et comment ils font en Italie, en Espagne, en Allemagne, où les villes sont interdites aux voitures?
Ils doivent certainement le faire à pied, mais quand vous avez un secteur comme Paris, vous vous rendez compte comment vous faire en fait à pied?
Oui, c'est pas Rouen.
C'est parce que c'est très grand, c'est pour ça.
C'est immense.
C'est pas Rouen.
Et vous pouvez...
Ouais, parce que le centre-ville de Rouen, je le connais, c'est 10 rues, hein. J'ai vécu.
Allez-y Hervé.
Pour ma part, je me suis dit on va passer en électrique, en vélo électrique.
Bien sûr.
Mais moi je suis handicapé. Donc
c'est pas grave. L'avenir c'est le vélo.
Oui, mais quand vous avez une main et handicapé un vélo, je demande à Madame Hidalgo comment on fait, quoi.
Donc, je crois qu'elle s'en fout.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais c'est une catastrophe.
Mais ça va être un peu la norme, hein. Ce que je veux vous dire, c'est que dans les grandes villes aujourd'hui, Vienne, Berlin, etc., c'est très difficile de se déplacer en voiture. Donc ça va devenir un peu une norme internationale.
Dans ce cas de figure, arrêtons toutes les voitures.
C'est d'accord. Et puis, disons aux gens que les familles ne pourront pas vivre dans les centres-villes. D'ailleurs, elles fuient ces centres-villes.
Et ça
te transforme en musée.
Voilà.
Après, moi, j'aime bien balader à Rome comme touriste. Mais les Romains ne vivent plus dans le centre de Rome.
Bonjour, Denis. Je remercie Hervé d'avoir été avec nous. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
Denis du Vaucluse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'expression peine à jouir, alors?
Ça me conforte dans ce que je pense dans la classe politique, parce que c'est indigent, et quand on n'a plus rien à dire, on insulte les gens, en fait, quand on n'a pas d'argument. Le problème, c'est que tous ces gens-là qui se permettent de donner des leçons, parce que c'est quand même une bonne donneuse de leçons à ce niveau-là, ils ne se rendent pas compte que ceux qui leur permettent de donner ces leçons, c'est notre travail. Et le souci qu'on a, c'est qu'en fait, on se rend compte, encore une fois, et c'est une illustration, c'est que le travail est une variable d'ajustement pour tout, en fait. Et donc, elle vous dit ça comme si c'était naturel, de ne pas pouvoir travailler, de perdre de l'argent, parce que, on a décidé que. Parce que cette histoire, elle est gentille, mais on sait très bien que ces jeux qui étaient soi-disant annoncé comme populaire une grande fête nationale, on voit bien que c'est de la rigolade, puisque les départements et les communes sont obligés de financer le passage de la flamme. Derrière, on sait très bien que ça va nous coûter beaucoup plus que ce qui est annoncé. Ah bon, après, les chiffres, on va en faire dire ce qu'on veut. Hein. On pourra toujours dire que ça a été rentable pour beaucoup de gens. Mais à la réalité, on sait très bien que les Jeux Olympiques ne vont plus être possibles pour beaucoup, beaucoup de villes, parce qu'en fait, c'est devenu une usine à cash. Et que c'est trop cher, pour ce que c'est. On a perdu totalement la réalité de ce que devait être au départ les Jeux Olympiques. Et donc, à l'arrivée, qui c'est qui paye ? C'est toujours les mêmes. Et en plus, on a un personnage politique qui se permet, parce que je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois qu'elle a pris les transports en commun, cette brave dame, mais qui se permet de donner des leçons, quoi.
Mais vous ne trouvez pas normal que je sais pas, des villes comme en Russie, au Japon, en Angleterre, partout il y a les JO et qu'il faudrait pas les faire à Paris? Est-ce que vraiment on est un pays si à part qu'on puisse l'organiser partout sauf chez nous?
Mais pardon, si je peux me permettre, c'est qu'on les a fait différemment chez nous. On a voulu les faire dans la ville, c'est-à-dire qu'on a voulu transformer.
Il y en a plein en Saint-Denis.
Hein. Laisse-moi terminer. On a voulu transformer des places, des ponts, des esplanades en stade. On fait aux Invalides, il y a des tribunes. Pour Alexandre III, Concorde devient un stade, etc. Donc forcément, tu bloques la circulation et tu bloques la vie de la ville. Ce qui n'était pas le cas à Londres, ce qui n'était pas le cas à Pékin, etc. Il y avait des stades.
À Londres,
qui
tu peux déjà plus rentrer.
Il y avait
dans
des stades dédiés à ça. Donc ça, c'était un truc qui, à mon avis, n'a pas bien été expliqué, les conséquences. Et donc là, les gens qui vivent dans ces villes, et c'est pas seulement les Parisiens, parce que je rappelle que Paris, c'est surtout beaucoup de Franciliens qui viennent travailler, livrer, les artisans qui viennent travailler
et
pour les Parisiens.
Pas la
et donc, en fait, c'est l'enfer pour les gens qui travaillent.
Mais bien sûr,
c'est l'enfer.
Mais en fait, ça parachève quelque chose, que nos villes ne sont plus habitables.
Voilà.
Mais il n'y a pas que les villes.
C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la cherté de l'immobilier, avec la façon de penser les villes, on a laissé les villes livrées à la spéculation, à la financiarisation, et maintenant, merci, les Jeux Olympiques rajoutent un étage à ce truc.
Merci Denis d'avoir participé à notre discussion. Je vous remercie. Bonne journée du côté du Vaucluse.
À bientôt,
Denis. Ras-le-bol des peines à jouir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo? Enfin, un peu d'enthousiasme autour des Jeux Olympiques. On va voir ce que vous en pensez, ce que vous en avez dit là pendant le petit quart d'heure où on en a discuté. D'accord, êtes-vous d'accord avec Madame Hidalgo? Non, à 80%. Vous êtes des peines à jouir.
Que des peines à jouir.
Ceux qui ont voté non. Dans un instant, est-ce que vous arrivez à déterminer, en fonction du look de la personne, de son allure, des vêtements qu'elle porte, si elle est de gauche ou de droite? En particulier, c'est un politique. Allez, on en parle avec vous au 32-16.
La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199€ par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Prendre la parole avec les GG, c'est facile. C'est au 32-16 que ça se passe aujourd'hui avec Étienne Lébig, éducateur, Frédéric Farin, professeur d'économie, et Barbara Lefebvre, enseignante d'histoire, géographie. Est-ce que quand vous voyez arriver une personne, en fonction de la manière dont elle est habillée, vous pouvez vous dire, il est de gauche ou il est de droite? Eh bien, je vous propose d'en parler maintenant avec nous.
RMC, les grandes gueules.
En fait, c'est une... C'est vrai. C'est qui ça déjà?
Cookie Dingler, non?
Non,
c'est pas Cookie Dingler, c'était.
C'est l'époque là.
C'était qui? T'as le look coco, les amis là? On a un petit trou là, une petite.
Elvis.
Non, certainement pas.
Pas Charles Aznavour non plus.
Non plus.
La Roche-Valmont.
Ah
oui, la Roche-Valmont.
Ah ouais.
Et ben, dis donc, il doit continuer à toucher des droits.
C'est des années 80, ça.
Bien sûr, énorme tube des années 80.
Ben oui, ça.
Elle serait le seul, même.
Bon, c'est une étude qui a été publiée par le Journal of Economic Behavior and Organization.
Waouh.
Avec un travail en douce.
Avec un économiste pour reconnaître l'apparence politique en fonction des vêtements de la personnalité.
Oui, bah, la question est de savoir est-ce que l'apparence d'une personne permet de déterminer comment elle se positionne politiquement, à gauche ou à droite, l'habit fait-elle le moine. Alors, il y a eu une étude faite sur les députés et on s'est aperçu que les députés de droite étaient, par exemple, portaient moins souvent une barbe ou une moustache que les députés de gauche. Ils avaient tendance, les députés de droite, à avoir des lunettes. Et plus tendance à sourire, ça c'est étonnant, que leur homologue de gauche. Les députés de droite portent également moins souvent que leurs homologues de gauche des cravates rouges. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a fait de la cravate rouge l'un de ses marqueurs. Donc ils ont des cravates d'une autre couleur ou pas de cravate du tout de gauche. Voilà. Mais bon, ces différences quand même sont assez fragiles. Est-ce que par exemple autour de la table, mes chers Gégé, on pourrait déterminer en vous regardant pour qui vous votez? Tiens, Frédéric.
Oui.
T'as plutôt un look de prof de gauche.
Ouais, je pense que le jean, y a pas de veste, pas de cravate.
C'est plutôt de gauche.
Hein. C'est plutôt de gauche. Barbe années 81, donc barbe époque relance 81. Ah, ça me fait plaisir quand je dis ça.
Et la vraie gauche.
La vraie gauche, celle qui me manque, dont je suis nostalgique éperdument. Ouais, non, je respire la gauche. Ouais.
Et Étienne.
Alors moi, je vais te dire, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Comment draguer la militante dans les réunions politiques ». Donc le héros, je parlais à la première personne, mais c'était évidemment imaginaire. Le héros, d'abord, devait se préparer à la fois sur les fringues qu'il devait porter pour draguer la militante, parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes fringues pour draguer une écologiste et pour draguer une nana du Front National. Et donc, il se préparait. Et en plus, il travaillait son langage. Donc, j'avais tout un lexique de mots à utiliser qui font plaisir aux uns et aux autres et quelques idées fortes à défendre pour se faire admettre et pour se faire aimer et pouvoir draguer. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur cette question.
Et sur le côté vestimentaire.
Et en fait, la réalité est différente. C'est-à-dire que le code vestimentaire, il indique plutôt à la fois les origines sociales et l'appartenance du monde social. Par exemple, on a toute une origine sociale qui, entre guillemets, on dit parvenue, mais c'est pas vraiment ça, qui a automatiquement besoin d'exister par le vêtement pour essayer de se montrer dans une classe sociale qui n'est pas la sienne au départ. Et donc, automatiquement, il a besoin à la fois d'avoir une grosse bagnole, il a à la fois besoin de démontrer qu'il fait partie du monde, de ce nouveau monde dans lequel il est arrivé. Donc ça, c'est différent. Il y a des gens, au contraire, qui sont nés naturellement dans des milieux très aisés, par exemple, et qui n'ont absolument pas besoin de démontrer ce qu'ils sont. Et donc, par exemple, ils vont être habillés extrêmement simplement et même parfois un peu crade parce que justement ils ont rien besoin de démontrer. Le vêtement est plus une manière d'affirmer une personnalité que de véritablement donner la classe politique à laquelle on appartient, même s'il y a des codes évidemment sociologiques qui sont propres à chaque parti. Mais ça va avec le langage aussi. C'est aussi une façon d'utiliser le langage. D'ailleurs, c'est très intéressant, là, ici même, la façon dont on utilise le langage, comment on va vouloir. Tout à l'heure, on critiquait Hidalgo. C'est exactement ça. C'est-à-dire, elle se positionne par le langage, dans une classe sociale qui visiblement n'est pas la sienne, mais c'est un jeu de langage, comme chacun va le faire. C'est-à-dire, d'autres vont se forcer, au contraire, à avoir un langage extrêmement travaillé et châtié, alors que c'est pas du tout leur langage du quotidien, comme on parlait de Jacques Chirac. Donc tout ça est lié.
Sociologiquement. Il paraît que avoir le pull sur les épaules, c'est être de droite.
Ah bah c'est hyper. Alors là,
oui,
ça sent.
C'est centre droit. À la boule.
Droit, ça sent Deauville, ça sent la boule. Oui,
que ça revient à la mode et les jeunes de nouveau. Alors là, pour le coup, à politique, mettent les pulls sur les épaules.
Mais je trouve que chez les politiques, l'arrivée relativement importante maintenant de femmes dans la vie politique permet justement une plus grande variété, une plus grande nuance dans justement l'accessoirisation, le fait que, alors même si je trouve que les femmes ont encore trop tendance à ne pas mettre des robes un peu fleuries, etc. On se rappelle de Cécile Duflo qui s'était fait moquer parce qu'elle avait une robe fleurie à l'Assemblée. Je trouve ça dommage que les femmes à l'Assemblée se sentent obligées certaines fois de se mettre des blazers, etc. Mais au moins, elles apportent quand même quelque chose qui donne aussi cette signature un petit peu particulière de leur mouvement. Et je pense que on a un exemple assez brillant d'une élégance folle et qui reflète d'ailleurs assez bien, je trouve, ses orientations. C'est Ercilia Soudé, par exemple, à l'Assemblée nationale. Je trouve
que quand on la voit. Députée France Insoumise.
Oui, députée France Insoumise. Quand on la voit en salopette, par exemple, je trouve qu'elle, on n'a pas de doute sur à la fois l'ordre et la rigueur de sa pensée.
Ou Louis Boyard, son pendant masculin.
Oui, mais alors Louis Boyard, si vous avez remarqué maintenant, pas du tout. Louis Boyard, maintenant, il est habillé en petit Mélenchon. Vous ne l'avez pas remarqué avec sa petite veste. Semi-veste, petite veste Mao. Il a exactement la veste qu'avait Mélenchon pendant toute la campagne et toute sa mandature de député. J'ai remarqué que Louis Boyard, il s'habille un peu plus député depuis quelques temps. En revanche, Ercilia Soudé, vraiment, c'est celle qui m'interpelle le plus quand je la vois. J'ai pas de doute.
Tu vois, je vais reprendre ce que tu viens de dire là.
Oui, j'assume.
C'est intéressant parce qu'en réalité, la démarche qu'elle suit, c'est une démarche qui va absolument... Si tu commences à te foutre de ma gueule avant même que j'ai parlé, c'est une démarche qui consiste à dire, je ne fais pas de différence entre ma vie, exactement comme moi ici, par exemple, je ne fais pas de différence entre ma vie privée, ma vie professionnelle, je suis habillé comme ça, si on me croise dans la rue, et au moment où je passe devant la caméra, c'est une volonté, depuis le début que je suis ici, de dire, vous avez le vrai Étienne Yebig, je parle comme je parle, et moi, je triche pas, je mens pas, et je fais pas de carrière politique. Le choix de le faire à l'Assemblée est un choix volontaire, politique et qui peut être critiqué. Et je comprends que tu le critiques. On peut dire c'est pas normal de se pointer comme ça à l'Assemblée. C'est un manque de respect par rapport aux institutions. Mais c'est un choix qui est réfléchi. C'est-à-dire je ne fais pas de différence entre ma vie quand je suis à la maison ou quand je suis au taf et quand je suis à l'Assemblée. C'est différent.
C'est pour ça qu'on l'identifie bien parce qu'elle fait pas de différence.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais revenons un peu sur quand même notre sujet de base. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on est capable de reconnaître quelqu'un de gauche ou de droite dans la rue?
Bah du coup oui.
Non mais dans le métro. Tu es capable de dire tiens lui je suis sûr qu'il vote à gauche.
Non, plus maintenant. Disons que le vêtement est
le vêtement le moins. Si Soudet tu le rencontrerais dans le métro tu dirais elle vote à gauche.
Bah évidemment. Enfin tu la vois
Non mais le vêtement
dépenaillé. Dépenaillé.
Et Jordan Bardella alors qui est toujours bien peigné,
là,
et bien habillé.
Là par exemple c'est un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire là c'est trop lisse. Par exemple,
Bardella. Oui, il a toujours été comme ça, Bardella.
Oui,
c'est le genre idéal.
On a vu même des vidéos de lui quand il avait 18 ans, qu'il était un simple militant. Il avait déjà.
Non, il était stagiaire. Il était payé 1 500 € pour un mi-temps.
Ouais, mais là, Bardella, je trouve que des fois, c'est trop propre sur lui.
Oui, c'est le genre idéal qu'on invite.
Et Gabriel Attal, alors.
Je pense que Bardella, c'est quelqu'un qui a besoin, justement.
Il est macroniste.
Dans mon analyse à moi, c'est quelqu'un qui a besoin de démontrer. Qui il est par son vêtement. Mais c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a une attitude naturelle, c'est quelqu'un qui travaille extraordinairement tous ses looks et qui travaille extraordinairement. D'ailleurs, on voit bien les poses photos et on voit bien quelle importance a le fait que ce soit un beau garçon et le fait qu'il en profite énormément. Et il a bien raison, c'est de la politique. Macron a fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils en profitent. Je pense qu'il y a une véritable placement là de produits qui est extrêmement intéressant sur le plan sociologique de la part de Bardella. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son look.
Mais regarde la manière dont on caricaturait, je parle avec le crayon, les profs dans les années 70-80.
Ouais.
C'est-à-dire que le prof, il était toujours avec une sacoche en bandoulière, un petit collier de barbe. C'était le prof.
Et tu le retrouves dans les films qui caricaturent les profs, d'ailleurs.
Oui. Hein. Ouais, les lecteurs de 81.
Donc, il y avait quand même une espèce de typicité profession. Si
moi,
tu veux,
je pense que c'est moins le cas aujourd'hui.
C'est moins politique.
En fait, c'est moins parce qu'il y a moins de marqueurs politiques. Et puis, maintenant, les parents s'habillent comme leurs enfants. Enfin, moi, avant, il y avait quand même une différence. Les enfants s'habillaient différemment des parents. Et maintenant, c'est les mêmes baskets. D'ailleurs, les enfants cliquent les affaires des parents. Il y a moins de marqueurs. Il y a moins de marqueurs même entre les riches et les pauvres.
Fred,
finalement, tout le monde veut un peu les mêmes marques, etc.
On va pas se mentir. Souvent, on se reconnaît. On se dit, ah, bah, lui, il est prof.
Est-ce que tu peux me dire de quoi ce qu'il enseigne?
Parce que le prof de maths, le prof de techno. Moi, je sais pas, je les reconnais un peu.
Mais bien sûr.
Le prof de gym.
Les profs de langue, c'est souvent des filles, c'est souvent des femmes.
C'est comme chez les journalistes, tu reconnais le journaliste sportif. À une époque, le journaliste sportif ou le journaliste aux Échos et le journaliste d'Aluma.
Moi, je pense que tu peux encore reconnaître un journaliste du Figaro et un journaliste de Libé.
Sarkozy qui avait fait cette remarque d'ailleurs, en disant reconnaît tout de suite un journaliste de Libération au milieu des journalistes qui lui avait tiré les foudres de la profession d'ailleurs.
C'est dans le Parti Socialiste à une époque. Certains étaient tentés d'avoir le look de François Mitterrand, c'est-à-dire le feutre mou, l'écharpe.
Ils n'avaient pas l'air cons sur tout cela.
Mais bon, c'était comme l'histoire du chapeau. Je veux dire, dans les années 30, celui qui portait un feutre mou était plutôt un bourgeois, celui qui portait la guêpe, c'était plutôt un ouvrier.
Un ouvrier. C'est Antoine qui va en dire un mot avec nous, qui nous appelle de Corse du Sud. Bonjour Antoine.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans les JO. Alors, est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'un look de gauche ou d'un look de droite?
Ah, personnellement, je trouve. Alors après, on va pas dire que ça marche à 100%, mais ouais, et particulièrement chez les adultes, en fait.
Oui.
Alors que personne ne se vexe, hein, mais je trouve, parce que c'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, je trouve que les personnes qui votent à gauche en étant adultes s'habillent un peu comme des enfants. Je trouve que ça manque de classe. et même, voilà, t-shirt, basket, un peu débraillé, et côté, même quand ça essaye d'être classe, avec des chemises, des pantalons, ça l'est pas, en fait.
Ouais. C'est, on joue au Lego, surtout, c'est ça le problème. Hein.
Ouais. C'est froissé, c'est pas terrible, en fait.
Non, parce qu'on a tout misé sur le cerveau. Donc, on n'a pas trop besoin d'apparence physique. C'est l'inverse de la droite.
Vous pensez
mais ils sont juste... très cons, ils sont obligés d'avoir une apparence très, très défendue.
Non, non, c'est juste que la droite, en fait, ils ont mis leur cerveau avec leurs fringues.
Les gens de gauche pensent juste
que c'est le cadre et de la rigueur.
Allez-y, Antoine.
Si je peux terminer, quand j'entends Étienne parler de cerveau, ben, ça prouve encore que la gauche est moins classe. Voilà.
Et moins classe, oui. Parce que quel mot j'aurais dû employer à la place de cerveau ? Hémisphère droit, hémisphère gauche ?
Que tu fasses référence à la question intellectuelle.
Je trouve qu'en fait, c'est très à gauche de croire qu'on est plus intelligent que les autres.
Oh, mais c'est de l'humour, cher ami. Je sais très bien que vous n'êtes pas plus bon.
C'est de l'humour.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même une tendance à gauche de penser être dans le camp du bien. Et il y a souvent plus de mépris de la part des gens de gauche.
C'est un peu terminé, ça, quand tu vois ce qu'on prend dans la gueule.
Mais la Macronie, c'est méprisant.
Mais la Macronie, c'est en même temps.
Ce qui est sidérant, c'est que les grands écrivains de la littérature française sont de droite.
Oui,
et puis regardez la bibliothèque de François Mitterrand qui aimait tant la littérature, c'était 70% de
souviens-toi de
droite, mais j'ai envie de dire que les plus grands
humoristes
étaient plutôt droite. Pierre Desproges, plutôt Guillaume Meurice, par exemple.
Camus est de gauche, hein.
Souviens-toi du fameux.
Oh, quelle gauche.
On préfère
c'est
avoir
pas la
tort
gauche
avec
LFI, hein, Camus. Hein.
Souviens-toi du fameux. On préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, tout simplement, juste parce que Aron était de droite.
Mais Camus, c'est pas la gauche LFI.
Oui, enfin,
si on avait une gauche comme la gauche de Camus,
Victor Hugo, il a été les deux. Il a été gauche et droit.
On va. Merci Antoine. Salut du côté de la Corse du Sud. On va regarder gauche-droite. Est-ce qu'il y a un look qui dit tout ? Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est de gauche et de droite uniquement à ses vêtements ? Y a-t-il un look de gauche, un look de droite ? Oui, il y a un look de gauche, un look de droite à 71%. Les vêtements ont la vie dure et les apparences ont la vie dure encore. Dans un instant, est-ce qu'on doit faire payer l'impôt sur le revenu par tous les Français, y compris ceux qui ont les revenus les plus modestes ? En fait, 45% des foyers français le payent. C'est peut-être pas assez aujourd'hui, il y a une injustice dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
C'est même factuel.
Alors, faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français ? Oui pour Olivier, mais non pour Frédéric, Barbara et Étienne, mon cher camarade, tu vas être seul contre tous.
Je défends l'égalité.
La nouvelle Suzuki Swift Hybrid, c'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199€ par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid, place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Faut pas que les gens suivent.
Donc, les amis, je vous propose maintenant au 32-16, avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules, de parler des impôts.
RMC.
GG, 7 et match.
Et oui, impôts. Impôts fiscaux. Impôts locaux. Impôts directs et impôts indirects. Impôts fonciers.
L'impôt sur le revenu. On est tous en ce moment en pleine déclaration de l'impôt sur le revenu. Puis en fonction de la zone géographique, vous savez que vous avez des différents délais. Il faut bien regarder à ce moment-là. 45% des foyers français le payent pour un montant moyen, a priori, de 4 663€. Sauf qu'aujourd'hui, on a donc une petite minorité de foyers qui, à elle seule, paye les trois quarts de l'impôt sur le revenu. Et donc, comme le disait un éditorialiste ce matin que je vais citer, qui s'appelle Nicolas Dose et qui officie sur BFM TV et sur BFM Business, finalement, on s'aperçoit avec ce problème d'assiette notamment, que l'impôt coche toutes les cases du mauvais impôt. La répartition ne va plus du tout. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut la revoir et faire en sorte que l'ensemble des Français payent même une toute petite part, mais payent l'impôt sur le revenu et donc le payent mieux? 32-16 pour en parler avec les GG. Mon cher Olivier, tu dis oui face aux trois autres qui disent non. Vas-y, je te laisse développer des arguments pendant 60 secondes.
Je suis d'ailleurs dans l'incompréhension que des gens de gauche ne trouvent pas notre impôt sur le revenu aujourd'hui totalement injuste. Parce que de quoi s'agit-il ? En fait, sur les 40,7 millions de foyers fiscaux, moins de la moitié des Français, tu l'as dit, payent les 82,1 milliards d'euros de recettes générées par l'impôt sur le revenu. Et en fait, quand on rentre dans le détail, 10% des Français seulement payent 76% du total. Et c'est un chiffre en augmentation régulière. C'était 74% en 2020, 75% en 2021. Donc, de moins en moins de Français payent de plus en plus d'impôts sur le revenu. Or, l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus juste puisqu'il repose par définition sur les revenus, il est progressif. D'ailleurs, c'est devenu le troisième impôt. Il a été dépassé par la TVA, qui est le premier impôt qui rapporte le plus d'argent. Ensuite, il y a la CSG qui rapporte énormément de l'argent. Et l'impôt sur le revenu, à force de politique totalement injuste, est devenu simplement le troisième impôt. Ça devrait être le premier. Et je suis pour que tous les Français payent l'impôt sur le revenu, même symboliquement, car c'est l'impôt le plus juste. Liberté, égalité, fraternité. Le mot égalité n'est pas respecté.
Jean-Luc Truchot vient de nous parler, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon, seul candidat. En 2017, d'ailleurs, a proposé cette chose complètement ahurissante de faire payer l'impôt sur le revenu à tout le monde. Donc
mais
on savait pas.
Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Tout arrive, tout arrive. Et toi, Étienne, te voilà dans le camp de ceux qui sont pour qu'on ne donne pas, on fasse pas payer l'impôt sur le revenu.
Oui, moi aussi. Hein,
mais je savais pas que Jean-Luc avait dit ça.
Oui. La TVA et la CSG sont deux impôts indirects qui sont payés par tous les Français, qui écrasent tous les Français et qui écrasent plus proportionnellement les plus pauvres que les plus aisés. Donc tu veux non ?
C'est ce que tu
non, mais justement. Donc tu veux aussi en
non,
plus
je veux
du fait qu'ils payent. Non, comment tu vas faire pour répartir la TVA et la CSG, toi ? Tu vas faire comment ? La TVA, elle est imposée sur tous les produits.
Bah, tu peux la faire baisser.
La TVA, par exemple, tu vas faire payer dans un magasin le poulet ou les pâtes. Bah, tu vas
déjà,
faire des TVA
déjà,
différentes.
Il y a des taux réduits pour certains produits.
Oui, mais pas pour tous. Et tu vas pas faire des TVA réduites pour les plus pauvres et sur le même produit et des TVA plus élevés.
Bah, tu sais
donc,
que
l'impôt
les plus
sur le revenu
proportionnellement plus de TVA que les riches.
Eh ben voilà. Mais donc, comment tu fais pour le poulet c'est à la caisse que tu vas montrer ton avis d'imposition.
Le débat est sur l'impôt sur le revenu.
Mais moi, je te dis que la TVA et la CSG, c'est déjà des impôts indirects qui pèsent lourdement sur les classes les plus pauvres. Donc, moi, je trouve normal que les classes les plus en difficulté n'aient pas en plus à payer un impôt sur le revenu qui serait essentiellement symbolique. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on irait multiplier les tranches. Au contraire, continuons d'augmenter les impôts sur ceux qui sont les plus aisés, qui déjà aujourd'hui 2% des foyers les plus aisés payent 40% des recettes de l'impôt sur le revenu, c'est très bien, et continuons à pousser.
Tu trouves ça normal ?
Eh ben oui.
C'est pas confiscatoire.
Ben non, au contraire, je trouve que c'est la logique de l'impôt. Depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tu payes l'impôt en fonction de tes moyens.
Non, la logique de l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif sur tes revenus. C'est pas j'exclus de l'impôt sur le revenu la moitié des Français.
Mais puisque tu payes la TVA à la CSG, t'es déjà pompé d'un autre côté.
Non, mais c'est François Hollande qui a commencé à faire cette bêtise en enlevant beaucoup de foyers fiscaux de l'impôt sur le revenu pour des raisons politiques et démagogiques. Bon, ça lui a pas servi puisqu'il n'a pas pu se représenter. Mais je pense que si on était juste et si Emmanuel Macron voulait faire une politique fiscale juste, il remettrait effectivement des foyers fiscaux dans l'impôt sur le revenu, quitte à baisser d'autres impôts. La CSG, je le rappelle, la CSG devait disparaître. C'était un impôt exceptionnel.
Elle ne cesse de s'alourdir. Michel
Rocard l'a créé en disant c'est une contribution.
Sur la CSG, juste là-dessus, et puis je reviens sur l'impôt sur le revenu puisque c'est le cœur du débat. Donc sur la CSG. En fait, sur la CSG, on va pas s'en débarrasser. Elle va monter en charge de plus en plus, puisque qu'est-ce qu'on observe ? C'est la fiscalisation de la protection sociale. C'est-à-dire que la part qui revient aux cotisations sociales, même si elle reste majoritaire, se contracte, et la fiscalisation augmente. Donc, puisqu'on a dit, le coût du travail, c'est affreux, c'est horrible, donc on a dit qu'il faut agir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on enlève, soi-disant, on exonère d'un côté, on le rajoute de l'autre côté, puisque la CSG augmente. Non, moi, le problème, c'est que, de toutes les façons...
Pour la baisse des impôts générales.
Pour moi, la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue contribue à la réduction des inégalités, c'est moins les impôts que la question des services publics et des prestations sociales. C'est ça qui contribue le plus à réduire les inégalités sociales entre les foyers. Moi, le problème, c'est que il faut rétablir ce que Macron a supprimé et qu'il a transformé de travers, qui était effectivement l'impôt de solidarité sur la fortune, qui s'est transformé en IFI, qui n'est pas la même chose. Donc, il faut réfléchir sur l'assiette et un impôt sur la fortune plus intelligent qu'il n'était que par le passé. L'abolir n'était pas la bonne chose. Le repenser, c'était mieux. Ça, c'est un.
Et il n'a pas été complètement aboli parce qu'il reste,
transformé,
il reste un impôt sur l'immobilier.
Sur l'immobilier qui rapporte moins et qui, effectivement, ne joue pas la même fonction redistributive ou la fonction de réduction des inégalités.
Le marché immobilier.
Voilà. Donc, c'était un raté. Moi, la question, c'est pas de savoir si les moins riches ou les plus pauvres devraient payer 1 euro ou 3 euros d'impôt. C'est de me rendre compte que le problème, et c'est ce que montrent les travaux de Cesse, de Landé, de Piketty ou autres, c'est que plus on monte dans les 0,00 et quelques, effectivement, eux, ils payent de moins en moins, effectivement, d'impôts. Donc, c'est les
on
plus fortunés.
Hein. Les 10%, oui. C'est pas cela. Les 10%, oui. C'est les cadres.
Bien sûr. Mais si on veut regarder
si
on veut regarder l'équité et la justice sociale, il faut à la fois regarder le cœur qui paye, je suis d'accord.
Exactement.
Avec toi, mais aussi il faut regarder tout en haut qui s'enfuit.
Alors attends, puisqu'on parle de l'impôt, je rappelle que si vous vous inscrivez, vous gagnez 20 000 euros, ça c'est net d'impôt. Hein.
Oui,
et c'est Bruno Le Maire qui nous l'avait dit ici en direct, c'est du gain de jeu.
Il l'avait confirmé.
Il l'avait confirmé, donc c'est le moment d'envoyer roue par SMS au 732-16, ça peut vous aider à payer vos impôts. C'est la roue multicash. Vous avez jusqu'à 20 000 euros à gagner, faut pas vous gêner, le tirage au sort et on fait tourner la roue tout à l'heure, c'est à 11h20, ça se passe dans les GG aujourd'hui et je rappelle que la semaine dernière on a fait gagner 10 000 euros, je croise les doigts pour qu'on double le gain et qu'on fasse gagner 20 000 euros tout à l'heure à 11h20. On revient à notre discussion sur l'impôt sur le revenu. Étienne,
je trouve qu'on peut pas à la fois trouver que les bas salaires et notamment le SMIC est insuffisant pour vivre et imposer les gens qui sont au SMIC et qui ont du mal à vivre, et notamment qui ont des enfants ou qui vivent en ville. Ou
pas
qui,
que des
etc.
SMICards qui ne payent pas un
impôt
sur le revenu.
Non, mais il y a beaucoup effectivement de SMICards qui sont en dessous parce qu'ils ont des enfants, etc. Donc il y a des parts, etc. Et je trouve que aujourd'hui, avec les difficultés que les gens ont à payer, les gens qui n'ont pas beaucoup de fric, c'est pas la peine de leur en piquer en plus, puisqu'on sait qu'il y en a un vrai problème. On a un vrai problème de pouvoir d'achat en France. Donc je trouve ça idiot comme formule. Ça va simplement punir plus ceux qui sont le plus, ceux qui sont le moins payés. Mais non, mais je veux dire, payer plus. Faire payer plus les gens qui déjà gagnent très peu et qui ont du mal à s'en sortir, c'est
moins de la
connerie.
Moitié des Français qui payent.
Et alors qui
ben c'est
en fait, c'est-à-dire des gens qui échappent aux impôts.
Échapper à l'impôt qui vont payer des impôts avec toi. Payer 10 balles.
Alors, c'est une meilleure répartition. Ce n'est pas normal. Enfin, je comprends même pas parce que pour moi, ça saute aux yeux. Et d'ailleurs, je pense que j'ai gagné le match parce que c'est une question de bon sens. C'est pas normal que 10% seulement des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu.
Pourquoi?
Parce que l'impôt sur le revenu. Parce que le système de protection sociale et notre système de d'État-providence ne peut pas reposer seulement sur 10% des Français. Ça sert à quoi l'impôt? Ça sert à payer nos soins. Ça sert à payer l'école de nos enfants, ça sert à payer la retraite, ça sert à payer nos routes, ça sert à payer les infrastructures. Et on ne peut pas, dans un pays, faire reposer uniquement sur le travail de 10% des Français.
L'impôt sur le revenu, c'est 25% des recettes de l'État seulement.
Parce que ces Français, à un moment donné, ces Français vont dire, mais attendez, je ne vois pas pourquoi je travaille. Je travaille finalement pour faire payer tout le monde.
Mais si.
Non, parce
que c'est en France qu'il y a le plus d'entreprises.
Alors en plus, ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout. Attends, je termine parce qu'en plus tu mélanges tout.
Mais les retraités fuient.
Non mais si tu me coupes pour dire des conneries, ça sert à rien. Coupe-moi pour dire des choses qui sont intelligentes. Là, tu me coupes pour dire. On parle pas des entreprises, on parle des particuliers. Pardon, mais moi je rencontre que des gens qui disent je ne comprends pas pourquoi je travaille comme un dératé pour payer à la place des autres. Et ça, le consentement sur l'impôt ne cesse de baisser dans tous les sondages. C'est à cause de ça, les gens pensent qu'il y a une injustice fiscale. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tout repose sur eux. Mais au 32-16, on a toujours des gens de la classe moyenne qui disent « Moi, je paye tout et j'ai droit à rien. »
Olivier, on est d'accord là-dessus parce que le problème, c'est que c'est pas la classe moyenne qui va être visée par cette question de payer des impôts.
C'est des gens qui sont très...
C'est à partir de la classe moyenne supérieure.
En même temps, on comprend pas.
L'impôt sur le revenu, c'est 25% déjà des recettes de l'État. Donc c'est pas non plus ça ne sert pas à payer tous les services publics. On est bien d'accord, il y a un gros problème de gestion du financement des services publics qui sont depuis des années en déshérence complète, c'est parce que on a. Mais c'est, le problème, c'est pas parce qu'on fait pas payer assez l'impôt sur le revenu. C'est parce que l'État dépense n'importe comment, et en particulier parce qu'on a depuis 5 ans, par exemple, une explosion de la dette sociale, plus 700 milliards de dettes sociales. Les retraites.
Si on se prive de recettes, forcément, on a moins de moyens.
Non, quand même. Mais ah bon, les recettes, elles seront prêtes à prendre sur les petits salaires. Elles seront à prendre sur les gros.
Mais sur tout le
quand
monde.
Quand tu vois les dividendes des grandes entreprises.
Mais Bernard Arnault, il paye 145 milliards d'impôts par an.
145 milliards de dividendes. Bah, au moins, arrête la flat tax, enlève la flat tax. Dis-moi. D'abord, on enlève la flat tax, on remet l'impôt sur l'impôt sur la fortune, et après, peut-être, si là, oui, vraiment, on a du mal, on fera payer l'impôt sur le revenu à tout le monde.
Mais avant, il y a la flat tax.
Avant, il y a d'autres impôts à rétablir plutôt
Frédéric,
que de mettre l'impôt sur le revenu.
Vous allez pouvoir apporter d'autres arguments dans un instant, puisque ce n'est que le début de la discussion sur l'impôt. Je sais que Stéphane, qui est fonctionnaire, qui nous appelle du Finistère, a choisi son camp, choisi son équipe. Il nous dira laquelle, justement. Faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit finalement que 45% des Français le payent. Il y a une minorité, 10%, qui paye les trois quarts de la facture. Donc venez en continuer d'en parler avec les GG au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.